Eh bien bonjour messieurs, dames, on se retrouve en ce samedi matin avec beaucoup de plaisir pour attaquer la troisième et dernière partie de notre long et beau chapitre consacré à la préhistoire. Après nous être intéressés au paléo et mésolithique, plongeons-nous aujourd'hui dans le néolithique, autrement dit la pierre nouvelle, qui est bien entendu la période la plus proche de nous. Mais là, je ne t'apprends rien, mon Lionel, évidemment, tout ça, tu le sais. Alors, Sapiens s'est développé, évidemment, Estelle nous a expliqué tout ça. Au cours des siècles, il a inventé, il s'est adapté, il a conquis de nouveaux territoires pour devenir l'humain que nous sommes à peu près aujourd'hui. Et c'est toujours notre archéologue, donc Estelle Yvain, qui va nous expliquer comment tout cela s'enchaîne pour se terminer par l'entrée dans l'histoire à proprement parler. Sommes-nous dans des révolutions cognitives, climatiques, sociales ou culturelles? Une fois de plus, qu'est-ce qui nous fait basculer d'une période à une autre? Y a-t-il des marqueurs précis? Nous voulons tout savoir, bien sûr. Et Estelle, pour cela, je te laisserai bien volontiers la parole. Mais permettons-nous quand même, avant cela, d'éclairer les lanternes de nos auditeurs qui nous bombardent de questions. Et oui, ça nous passionne, cette préhistoire, sur ce fameux mésolithique qui est quand même ta période de prédilection, Estelle. Où en sommes-nous à ce moment là, quand tu nous as fini cette période-là, où en sommes-nous concernant l'agriculture, la sédentarisation, la conquête de nouveaux espaces, l'évolution par rapport à la zone géographique et la prédominance d'Homo sapiens sur le reste des races humaines. Alors Estelle, évidemment, tu vas nous dire que tout ça a été lent dans l'histoire, bien sûr, on le sait, mais là tu as 5 minutes chrono pour une récap. C'est histoire épique, messieurs-là, passez un excellent moment.
Donc 5 minutes, quelques millénaires, j'adore. Ok. Donc, alors, pour ce qui est de l'agriculture.
Oui.
Alors, question sur l'agriculture au mésolithique. Il n'y a pas d'agriculture au mésolithique.
Ah, bah au moins,
voilà,
ça c'est clair.
Boum, voilà.
Voilà.
Dans ça... l'état actuel des connaissances.
C'est très bien, c'est clair, c'est précis, c'est bref. Merci.
Voilà.
Alors, rappelle-nous, Estelle.
Au mésolithique, mais. Voilà, il y a quand même des études de palynologie qui sont menées hein, régulièrement. Et puis, parfois, on retrouve au bord de mer des pollens qui sont plus gros que les autres et qui pourraient résulter en fait de plantes qui ont été anthropisées, notamment de graminées qui ont subi une sélection anthropique.
D'accord. Alors, chaque fois que tu vas nous donner un terme un petit peu technique, il va falloir l'expliquer un peu quand même. C'est la palynologie, tu disais,
donc l'étude palynologie, des... donc c'est l'étude des pollens.
L'étude des pollens. Et tu vas nous rappeler un petit peu, s'il te plaît, les dates, là, où on en est à peu près dans l'histoire, pour que les gens soient quand même un petit peu au courant.
Alors, on est entre moins 10 000 et moins 5 000 avant Jésus-Christ en Europe occidentale.
Ok, merci.
Voilà, donc c'est pas tout le temps les mêmes dates partout dans le monde, donc là, c'est pour ça que je parle de l'Europe occidentale.
D'accord, donc l'agriculture, tu nous dis que, si on résume un petit peu, il n'y en a pas encore vraiment.
Mais c'est quand même en débat avec certains palynologues, justement,
d'accord,
spécialistes des pollens. Donc c'est toujours des recherches en cours parce qu'en fait c'est, je vous expliquerai ça après, très difficile hein, de distinguer une plante qui commence à être domestiquée d'une plante qui est encore sauvage parce que au début de la domestication, donc la proto-agriculture, c'est quelque chose qui est finalement difficile à déterminer. Hein.
Évidemment.
Donc forcément c'est en débat. Sédentarisation c'est... maintenant. Point 2 des questions parce que je n'ai que 5 minutes. Donc sédentarisation. Alors au mésolithique, on a certains groupes, notamment ceux qui vivent en bord de mer ou ceux qui vivent dans des régions où il y a plusieurs écosystèmes complémentaires. Donc là, ceux-là, ils sont en voie de sédentarisation, c'est-à-dire ils sont dans une proto-sédentarisation, ils vont occuper très longtemps les mêmes lieux, revenir dessus, ils vont faire des cimetières, donc ce qui veut dire qu'ils vont enterrer les mêmes personnes au même endroit, dans des caveaux même, c'est-à-dire des caveaux qui vont être ouverts et refermés, donc ce qu'on voit très bien, par exemple, à Teviec et Edic dans le golfe du Morbihan en Bretagne. Donc des caveaux qui vont être ouverts, fermés, ce qui veut dire que les populations, c'est leur cimetière, elles reviennent au même endroit. Donc on voit très bien ça aussi par moi, ce qui est ma spécialité, c'est-à-dire l'étude des roches. Mmh. Donc on constate que les territoires d'approvisionnement se resserrent beaucoup et on voit même des frontières d'utilisation de certains matériaux, c'est-à-dire que d'un côté ou de l'autre d'un cours d'eau, ils ne vont pas utiliser les mêmes roches.
Parfait. Concernant la conquête alors des nouveaux espaces, on en est où dans le monde? Tu nous avais expliqué qu'à la fin quelle était notre première période
paléo,
ils avaient déjà commencé à beaucoup voyager. On en est où à la fin du méso là?
Alors à la fin du mésolithique, donc on a quelques nouveaux territoires qui sont conquis ou reconquis. Après, on n'aura pas les grandes découvertes du début du paléolithique supérieur, hein, enfin du paléolithique supérieur, donc l'Amérique qui est déjà connue, tout ça. Mmh. Mais on a quelques points qui restaient peu ou mal connus et puis qui vont commencer à être occupés, notamment des îles. Alors, par exemple, on a l'Irlande ou la Corse, dont on n'a pas de traces d'occupation paléolithique. Et on a des traces d'occupation mésolithique.
D'accord. Personnellement, moi, je serais plutôt allé en Corse, mais bon, chacun fait ce qu'il veut après. Hein. Et donc, très bien par rapport à cela. Et par rapport, alors, on en parlait aussi sur la précédente émission, le fait que le monde ne se développe pas à la même vitesse partout sur les mêmes espaces géographiques, tout ça, c'est les recherches l'ont prouvé, tout ça, c'est du sûr, ça, alors.
Alors, oui, disons que les groupes humains vont être confrontés à des écosystèmes très différents les uns des autres. Donc, évidemment, ils ne vont pas avoir les mêmes solutions, ni sociales, ni techniques, face à ces différents environnements.
Oui, c'est ça.
Donc, quand on est aujourd'hui encore, jusqu'au XXe siècle, hein, même encore un petit peu aujourd'hui, les groupes qui ne peuvent pas pratiquer l'agriculture sont restés chasseurs-cueilleurs. Mmh. Hein, les aborigènes d'Australie, ils étaient encore chasseurs-cueilleurs au début du XXe siècle. Les Inuits d'Arctique, ils sont restés chasseurs jusqu'au XXe siècle également. Mmh. Aujourd'hui encore, ils continuent à faire beaucoup de chasse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne peut pas pratiquer l'agriculture dans ces régions-là. Donc ou très peu. Donc voilà. Ça va beaucoup dépendre aussi du milieu, des conditions bioclimatiques. Et puis, il va y avoir aussi certains traits culturels qui vont bloquer.
D'accord.
Alors ça, par exemple, c'est en Amérique. Les peuples amérindiens, on a constaté qu'ils ont très peu développé la domestication parce qu'ils considèrent en fait que les troupeaux sauvages appartiennent à des génies et qu'on n'a pas le droit de s'accaparer le troupeau des génies. Voilà.
D'accord, tout simplement.
Donc on va
alors.
Avoir très peu d'élevage. Donc on va avoir comme ça des blocages culturels qui expliquent que on va rentrer ou pas dans le néolithique. Il y a plusieurs groupes humains qui ne vont pas rentrer dans le néolithique. Certains groupes ne vont pas rentrer dans le néolithique parce que en fait leurs conditions de vie sont trop favorables.
Oui.
Donc, ils ont déjà largement assez à manger avec ce que leur donne la nature. Ils n'ont pas besoin de plus. Donc pourquoi est-ce qu'ils iraient s'embêter à faire de l'élevage et de l'agriculture?
Oui.
Donc ça c'est par exemple au Japon. On a pu constater que ils n'ont pas cherché à développer l'élevage et l'agriculture parce que ce qu'ils trouvaient dans la nature leur suffisait.
Eh ben, merci beaucoup Estelle pour ce petit topo par rapport à nos précédentes émissions. On s'est remis un petit peu le cerveau à l'endroit. On se l'est remis surtout dans la préhistoire. Lionel, tu me rappelles où on en est dans les dates?
Là, on est sur du moins 5000.
Oui, moins 5000, c'est ça. Et donc Estelle, on va passer du méso au néo. Et donc là, c'est quoi qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'un à l'autre, Lionel? Oui.
Oui, je me permets de passer cette transition parce que là, tu nous as parlé sur deux émissions, finalement d'évolution. Et tu as bien insisté sur il y a beaucoup de temps, les choses se font doucement et d'ailleurs dans différents secteurs géographiques. Et puis là, on va parler, tu vas sûrement nous en parler, de révolution néolithique. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les choses s'accélèrent? Est-ce qu'il y a de nouvelles choses ou c'est des choses qui s'améliorent?
Ben, je vais justement pas parler de révolution.
Bien, bien.
Voilà.
Raté, mon Lionel.
En fait, le terme, il a été utilisé, il n'est pas très bien choisi, parce que l'évolution vers le néolithique va prendre quelques siècles, parfois quelques millénaires. Donc, on ne peut pas vraiment parler d'une révolution, on ne peut pas parler de quelque chose qui soit très rapide. Ça va pas être non plus totalement radical dans les foyers de néolithisation. On va distinguer les foyers de néolithisation et là où le néolithique est importé. Et là, donc, dans les foyers de nullitisation, c'est très... ça va se faire en transition, hein. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, tout ça.
Mais est-ce que, Estelle, pour nous éclairer quand même, est-ce, parce que pour toi, évidemment, tout ça, c'est naturel, mais pour nous, néolithique, à part ce que j'ai peut-être dit dans l'introduction, à savoir que c'était la pierre nouvelle, ça correspond à quoi ? Qu'est-ce qui fait
ah
que...
Oui. Ah oui, bah oui,
ça veut
oui,
dire quoi
bien
ce
sûr.
Terme ?
Alors, le néolithique, alors pendant longtemps, ça a été, on a appelé ça néolithique parce qu'on va inventer un nouveau type d'outil qui va se retrouver partout dans le monde, et ça, évidemment, partout dans le monde, c'est la lave de H. Pauli.
Ah, voilà.
D'accord.
Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la néolithique, la pierre nouvelle, parce qu'il y a un nouvel outil en pierre qui va être utilisé, c'est la lame de H. Pauli. Alors pourquoi la lame de H. Pauli ? Parce qu'on est avec des populations sédentaires qui sont entourées de forêts, donc ils vont devoir couper les arbres pour faire des clairières, pour pouvoir faire des champs tout simplement, et qui vont couper les arbres également pour faire des maisons en bois. Donc ils vont avoir besoin de pas mal de bois et de couper ce bois. Donc c'est pour ça qu'on retrouve sur tous les sites néolithiques, partout dans le monde, on retrouve ces lames de H. Pauli, on a appelé ça le néolithique. Alors c'est peut-être pas très bien choisi, parce qu'en fait aujourd'hui ce qu'on dit, ce qui caractérise vraiment le néolithique, ça va pas être un outil, puisqu'en fait des haches, on en retrouve au mésolithique, même si elles sont pas polies, elles sont que taillées, on en retrouve quand même au mésolithique. En fait, la vraie distinction par rapport au paléolithique, c'est que l'humain devient producteur de son alimentation.
Voilà. Donc tu expliques bien que la hache polie, elle sert essentiellement pour le bois, plus que pour la chasse, plus que pour les
lames de hache polie, ouais.
Oui, c'est surtout
haches,
le bois. Hein.
Voilà, c'est des haches pour couper le bois. Alors là, on a les études des tracéologues, donc c'est des gens qui étudient les petites traces sur les outils, et donc qui étudient ces traces. Donc,
oui, parce que tu vas encore nous rappeler que le bois, il n'y a pas de traces de bois, en fait.
Alors, quand on travaille le bois avec un outil,
oui,
ça laisse
ça.
Des marques sur l'outil.
Mais le bois lui-même, il n'y a qu'une trace du bois lui-même.
Le bois, lui, c'est vrai qu'on l'a de temps en temps, hein, mais voilà, dans des conditions très particulières. Mais par contre, on va savoir que du bois a été utilisé parce que sur les outils, on voit les traces que laisse le bois.
Mmh.
Voilà, par les études microscopiques.
Ça doit être passionnant, tous ces boulots-là, hein, parce qu'on travaille quasiment que sur hypothèse, on travaille quasiment que sur des traces qui existent à peine. Ça doit être assez spécial, mais bravo à vous. Bravo à vous. Oui, je te laisse parler, Estelle.
Donc, voilà. C'est le néolithique, ça va être ça. Ça va être l'époque où on produit son aliment. On va commencer à produire notre alimentation, donc élevage, agriculture. Voilà, c'est ça vraiment le néolithique.
Très bien.
Et c'est pour ça qu'on va dire que pour le moment, il n'y a pas de traces d'agriculture au Mésolithique.
D'accord. Voilà. Très bien. Et c'est Loïc Cardinal qui nous rejoint, professeur également d'histoire géo au lycée Douanier-Rousseau. Salut Loïc.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver, Loïc, parce que toi aussi, tu es un passionné d'histoire de n'importe quelle période, et là, en l'occurrence, de cette fameuse préhistoire. On en est au néolithique, Loïc.
Néolithique, oui, j'ai entendu. C'est pas ma période la plus adorée, mais je connais quelques petites choses.
Et oui. Tu vas voir, Estelle nous explique ça. On te coupe, ma pauvre Estelle. C'était juste pour dire bonjour à Loïc. Oui, Lionel.
Estelle, tu associes beaucoup, et c'est normal, agriculture et élevage. Mais est-ce que dans toutes les zones géographiques, il y avait ces deux formes au néolithique,
non.
Ou parfois qu'une seule des deux ?
Il y a parfois qu'une seule des deux, ouais, effectivement. L'élevage, par exemple, comme je l'ai dit, en Amérique, très peu. Il y a eu très très peu d'élevage au néolithique, pour les raisons que je vous ai évoquées, hein, parce que les Amérindiens considèrent qu'il ne faut pas voler le bétail des esprits.
Donc là, il y a un côté divin aussi qui arrive avec le néolithique ?
Ah, ça existait déjà,
d'accord.
Mais on connaît moins bien, mais ça existait. Il y a déjà des blocages culturels, hein, qu'on repère au paléolithique, il y a plein de choses qu'on repère en fait. Et par exemple, en Arctique, il y a des peuples qui ont fait le choix d'élever les rennes. Il y a des peuples qui ont fait le choix de ne pas élever les rennes.
Mmh.
Donc les Inuits n'ont jamais élevé de rennes, tandis que les Tchouks, par exemple, ou les Samos, ou d'autres peuples de Russie notamment, ont élevé les rennes. Donc en fait, l'élevage est possible en Arctique. Mais sauf que, par exemple, les Inuits... Donc, on fait le choix de ne pas les élever. Donc, d'accord. Par contre, là, dans certaines régions, on ne peut pas faire d'agriculture, et notamment en Arctique, on ne peut pas faire d'agriculture. Ça, c'est certain. Mais l'élevage, ben, ça se discute, en fait.
D'accord. Et donc, oui, Lionel, toujours,
oui, toujours sujet, oui, non, parce que l'élevage me pose beaucoup d'interrogations. Là aussi, en termes d'intérêt principal, on est sur de l'élevage pour la nourriture, pour, je sais pas, l'attraction, pour l'événement ou pour tout ça ensemble?
Alors, pour l'élevage, y a aussi une chose. Quand on voit au Proche-Orient, par exemple, le Proche-Orient qui est le foyer de néolithisation dont on dépend, dont l'Europe dépend. Donc, dans certaines régions plus sèches, ils ont plus développé l'agriculture parce qu'ils avaient quand même le tigre et l'euphrate à côté. Et dans certaines régions plus humides, ils ont commencé par développer l'élevage. Donc, ça ne va pas se faire forcément toujours en même temps non plus. Voilà. Et du coup, j'ai oublié ta question.
C'était l'usage de l'élevage principal, nourriture, vêtements,
l'élevage.
Portage.
C'est tout ça en même temps. C'est tout ça en même temps. Rien n'est perdu, en fait. Mais c'était déjà ça avec la chasse. Hein. On chasse pour manger, on chasse aussi pour faire des vêtements, pour faire des tentes. Les ossements des animaux sont récupérés pour faire des outils, pour faire des bijoux. Voilà.
Faire de l'engrais peut-être aussi?
Alors, faire de l'engrais, ça, on ne pourrait pas en avoir de traces.
Ouais.
Mais c'est tout à fait probable, oui. Et puis, on a de la documentation là-dessus. On commence à avoir, donc ça, c'est pas au début du néolithique, évidemment, il faut attendre un petit peu. Mais on va avoir des animaux qui ont dont le squelette est marqué par de la traction.
Ah.
Donc, ce qui veut dire que très vite, ils vont utiliser la rare et puis faire des attelages d'animaux.
Là, c'est le lien entre l'élevage et l'agriculture, finalement.
Et là, c'est le lien entre l'élevage et l'agriculture, ouais. Et puis ça montre vraiment que l'animal est utilisé dans toutes ses formes. On a un animal qui est utilisé dans toutes ses formes. Donc, par exemple, à Benigueth, ici en Bretagne, on a ces traces d'élevage avec des traces d'arrière, et puis on a les squelettes des animaux qui sont marqués hein, par l'élevage. Donc l'élevage va très vite servir aussi bien à se nourrir qu'à aider les humains. Après, la distinction, ça va être aussi donc cet élevage donc qui est fait pour l'humain, et le chien là-dedans qui lui a été domestiqué dès le paléolithique supérieur, mais là c'est pas du tout la même forme en fait d'élevage quand on est avec le chien. Le chien, il y a une complémentarité entre les humains et le chien qui fait qu'ils étaient ça les aidait les uns comme les autres, alors que pour les animaux, c'est vraiment au service de l'être humain. Les autres animaux, c'est vraiment au service de l'être humain qu'on les sélectionne.
Et ça ne t'interpelle pas, toi, Estelle, ce temps finalement immense qu'il y a eu entre l'apparition d'Homo sapiens et ce moment où ils ont commencé à se sédentariser. Bah, si on parle d'Homo sapiens, c'est à peu près 6 millions. Et là, on est à. Tu nous dis qu'on est à moins 5 000 à peu près, là ouais. Moi, ça me semble dingue, toute cette période-là, finalement. Alors, tu nous l'as expliqué, hein, pour des conditions climatiques, pour des conditions de taux de population et ainsi de suite. Mais toi, ça ne t'interpelle pas, ça?
Alors, ça ne m'interpelle pas, puisque ça, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on soit passé à l'élevage et l'agriculture, en fait, plus qu'autre chose. Ça demande beaucoup plus de travail.
Ah oui.
Donc, c'est là-dessus que je me questionne. Voilà, ça demande beaucoup plus de travail. Un éleveur agriculteur travaille beaucoup plus qu'un chasseur-cueilleur. Donc ça s'explique par le fait aussi que quand tu passes à l'élevage et l'agriculture, en fait, tu considères que tu domines la nature.
Oui.
Et on va voir ça au niveau des... Parce que la grande question, c'est comment, pourquoi est-ce qu'on est passé de l'un à l'autre?
Oui.
Donc, ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est les choix culturels là-dedans. Parce que un chasseur-cueilleur du paléolithique va systématiquement représenter, on le voit dans les grottes, on le voit partout, des animaux, un art figuratif dans lequel il ne semble pas dominer l'animal. Et au néolithique, en fait, ben, on va s'extraire de la nature et se mettre à la dominer et à la contrôler. Et ça, ça pouvait pas se faire du jour au lendemain, et ça a nécessité un temps long. Ça montre en fait des changements culturels qui sont vraiment profonds, des façons de voir la nature qui sont complètement différentes.
Mais pourtant, tu nous as expliqué sur une précédente émission qu'une fois qu'Homo sapiens est né, en tout cas sur son faciès et autres, on pourrait se reconnaître. Mais quand on parle d'instinct animal, l'homme, pour toi, n'a pas cet instinct de domination qui aurait dû l'amener tout de suite à dominer la bête et à dominer autre chose, d'ailleurs.
Il a cette tendance sapiens à détruire l'environnement dans lequel il se trouve. Il y a quelques documentations là-dessus, pas systématiquement, mais quand même. Vraiment, s'extraire de la nature comme c'est le cas à Néolithique, c'est encore une autre étape. Hein. Parce que là, c'est costaud. Hein. Normalement, dans la nature, il y a une sélection naturelle.
Ouais.
C'est-à-dire, ceux qui ne sont pas aptes à vivre, ils meurent.
Voilà. Ouais.
Donc la néolithisation, c'est quoi ? La néolithisation, c'est la sélection artificielle. C'est-à-dire, on va sélectionner sur les animaux, sur les plantes, des choses qui ne pourraient pas fonctionner dans la nature.
Ah !
Voilà. Par exemple, si vous prenez une vache laitière d'aujourd'hui, vous la lâchez dans un bois, elle meurt. C'est pas possible. Elle a des mamelles énormes, elle attend que ça traite la pauvre bête, elle va mourir. Et en plus, elle n'a plus de cornes, donc elle ne pourra pas se défendre. Donc voilà. Donc on a sélectionné chez les vaches des animaux qui ont des cornes moins impressionnantes, qui produisent plus de lait ou qui produisent plus de viande. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs races de vaches. Hein.
Mmh.
Chez les plantes, c'est la même chose. À la base, si je prends l'exemple du blé, puisque nous, on dépend du Proche-Orient. Donc, si je prends l'exemple du blé, à la base, c'est des grains qui restent, qui, quand ils sont mûrs, ils s'envolent librement pour aller s'aimer un peu partout. Forcément, ça ne peut pas plaire à un agriculteur, ça, que les blés, que les grains, ils s'envolent. Donc, année après année, ils vont sélectionner les grains qui restent fixés à la plante.
Ouais.
Et ça va donner le blé d'aujourd'hui, c'est-à-dire les grains, une fois qu'ils sont mûrs, ils ne s'envolent plus au vent, ils restent fixés à la tige. C'est quelque chose qui ne pourrait pas fonctionner dans la nature parce que tout simplement, du coup, la plante ne pourrait pas se reproduire puisqu'elle ne pourrait pas semer ses graines.
Et une fois de plus, ça, Estelle, alors j'imagine qu'il y a peut-être une personne quelque part, j'en sais rien, en Iran, qui a trouvé ça. Est-ce que ça s'est propagé à travers le monde ? Est-ce que les découvertes se sont faites un petit peu partout ? Est-ce que l'homme a voyagé pour propager sa culture, justement ?
Non,
comment ça s'est fait, tout ça ?
Les foyers de néolithisation que l'on connaît sont indépendants les uns des autres.
Ah oui.
Donc, et ça, c'est aussi assez intéressant. On voit, hein, ils n'arrivent pas exactement à la même période partout. On est, pour le Proche-Orient, on est sur du moins 10 000 à moins 9 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, chez nous, on est au Mésolithique, en Europe occidentale. Hein,
mm-hmm.
Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes temps. Hein. En Asie du Sud-Est, on est sur du moins 8 000. En Amérique centrale, on va être sur du moins 8 000 aussi. Moins 5 000 dans les Andes. En Afrique, ça va être un petit peu plus tard, ça va être vers moins 5000 également. Mais par contre, selon le même système, c'est-à-dire qu'on va commencer à sélectionner les plantes.
Ouais.
Et il n'y a pas d'échange, les barrières sont trop énormes, en fait, les barrières naturelles. Il n'y a pas d'échange à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'on est passé au néolithique ? Alors, l'une des raisons, évidemment, c'est qu'on invoque, c'est l'environnement. Mais il n'y a pas du tout que ça. Hein, parce que bon, c'est vrai qu'au Proche-Orient, par exemple, ça marche. On a une période où le climat est plus favorable à la diffusion de plantes qui sont domesticables, qui sont sélectionnables, et des espèces animales qui sont sélectionnables. Mais il faut savoir que les foyers là, je vous ai cité les Andes, je vous ai cité l'Océanie, l'Afrique subsaharienne. C'est pas le même climat dans ces régions-là. Donc, ça ne peut pas être lié strictement à une région bioclimatique, puisque les climats dans lesquels vont se développer les foyers de néolithisation ne sont pas les mêmes. Donc, voilà. Il y a ça, mais pas que. Donc, il faut aussi qu'ils aient des techniques, qu'ils soient arrivés à un niveau technique suffisant. Si je prends l'exemple, parce qu'il va se poser le problème du stockage des céréales, quand elles sont mises les unes avec les autres, elles vont émettre un... les céréales, elles vont pourrir. Et si on les met les unes avec les autres, elles vont émettre un gaz carbonique qui va les endormir et qui va stopper leur germination. Donc, pour pouvoir conserver les céréales, en gros, ben, faut avoir l'idée soit de faire de la poterie, soit faire des sillots, des fosses dans lesquelles on va mettre plein de céréales en même temps. Donc, faut avoir atteint ce niveau technique-là, avoir trouvé cette technique-là. Donc, forcément, ça va demander un petit peu de temps. Donc, il y a la culture dont je vous ai parlé. Et puis aussi, on sait que le néolithique, comme je vous l'ai déjà dit, hein, va se développer dans des régions qui sont favorables au niveau du climat, mais pas trop non plus, parce que quand c'est trop favorable, ben, ça ne se développe pas.
Mais ton passage au néolithique, Estelle, j'ai l'impression que tu nous l'expliques essentiellement en raison de, pour des raisons climatiques, en tout cas pour des raisons naturelles. Est-ce qu'il n'y a pas aussi à un moment dans le cerveau de Sapiens une révolution cognitive, comme j'ai pu le lire, et qui l'aurait amené à se dire j'en ai marre un petit peu de voyager et j'ai envie de me sédentariser. À aucun moment on prend cette hypothèse-là, on reste sur une idée essentiellement de changement climatique.
Moi, ce que j'ai dit essentiellement, c'est qu'il y avait le climat, l'environnement, d'accord, mais c'est d'abord un choix culturel.
Ah oui.
Voilà. Ce qu'on met le plus en avant, en fait, c'est quelque chose au niveau culturel qui va se développer. Alors, comment, pourquoi, ça, j'en sais rien. Mm-hmm. Est-ce que c'est... est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce que c'est un cheminement? Est-ce que c'est tout ça? Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de rupture. Si on prend les foyers de néolithisation, il n'y a pas de rupture entre paléolithique et néolithique. Ça va se faire de façon continue, tout ça.
Ouais, bah, tu nous aides pas pour notre émission, parce que nous, c'est le thème des ruptures. À toi, Lionel.
Oui. Je reviens un petit peu, malgré tout, sur l'histoire du climat, parce que tu nous avais expliqué que, je dirais, le redoux, tu vas le dire autrement, avait également changé les animaux, c'est-à-dire que les mammouths, qui étaient plutôt sur l'ère glaciaire, là, sur les territoires, en tout cas, glaciers, ont disparu pour faire place aux plus petits animaux, c'est ça? Est-ce que, justement, cette nouvelle faune a eu une importance dans... l'élevage?
Alors, pour l'élevage, on a des espèces qui sont domesticables, et puis il y a eu des essais sur des espèces qui sont révélées, qui ont raté. Et on a de la documentation sur, par exemple, ils ont tenté à un moment d'élever des gazelles. Enfin, ça n'a pas marché. Donc on a des tentatives d'élevage comme ça qui...
Ils n'arrivaient pas à les rattraper.
C'est ça.
Ah, la gazelle.
Un peu comme ma fille. Donc du coup, voilà, des espèces comme ça, ils ont tenté de la domestication, ça n'a pas marché. Ouais. Après, donc voilà, c'est dans ces foyers de néolithisation hein, qu'il n'y a pas de rupture entre paléolithique et néolithique. Par contre, si je prends l'exemple de l'Europe occidentale, là, on va avoir des ruptures entre mésolithique et néolithique.
Et tu vas nous expliquer tout ça après la petite coupure musicale. Estelle, on reste passionné, évidemment, par toute cette période néolithique. On plonge dedans et on a une émission et demie pour cela. Merci Estelle et à tout de suite. Allez, après cette petite coupure Kim Wilde très appréciable, on revient à notre préhistoire et à notre néolithique avec Estelle, bien sûr, toujours, qui nous explique comment on est passé du méso au néo, comment on arrive gentiment dans cette histoire assez longue jusqu'à la véritable histoire. On en est dans la domestication des techniques, une façon d'appréhender le monde. Estelle, c'est ça? C'est bien ça? Comment on domestique tout ça, alors?
Alors... Ensuite, donc, comme je vous ai dit, donc entre paléolithique et néolithique, il n'y a pas de rupture dans les foyers de néolithisation.
Oui.
Mais en dehors, en fait, le néolithique va être importé, dans, par exemple, en Europe occidentale. Mmh. Et il va mettre 5000 ans à passer, par exemple, du Proche-Orient jusqu'à l'ouest de la France.
Ouais, mais ça, tu vois, t'as l'air de dire 5000 ans d'un air, ça paraît incroyable. Mais comme je disais tout à l'heure, moi, ça me paraît beaucoup plus incroyable que pendant 6 millions d'années, on ne soit pas arrivé à ce niveau-là. Pour moi, 5000 ans, du coup, ça ne correspond pas à grand-chose quoi, sur cette échelle.
5000 ans, c'est quand même beaucoup. Donc, ça montre en fait que ce n'est pas des invasions barbares où ils vont massacrer tout le monde et puis ils vont imposer leur système. Ce qui va se passer, c'est qu'on est avec des sédentaires. Et qui sont producteurs. Donc ces personnes, la population grandit. Hein, ouais. On peut pas parler d'explosion démographique, c'est pas vrai, mais la population augmente. Et quand la population augmente, ils vont devoir conquérir de nouveaux territoires,
oui.
Donc aller sur des nouveaux territoires. Donc petit à petit, très doucement. Ils vont passer du Proche-Orient jusqu'à l'ouest de la France sans qu'il y ait de grandes invasions, mais par étapes, comme ça, de génération en génération, parce que de génération en génération, la population augmente. Parce que ce qui va amener aussi le néolithique, ça va être aussi marqué par une augmentation de la population quand même importante. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est pas parce qu'on mange mieux du tout, en fait. En fait, on remarque en archéologie qu'au néolithique, les gens, ils sont plus petits et ils ont plus de caries. Et ils vont développer des maladies comme le diabète, comme des choses comme ça. Parce qu'en fait, dans notre alimentation, on mange trop de sucre. Et il y a une trop grosse consommation de céréales, des choses comme ça. Donc en fait, ils sont en moins bonne santé que ceux du mésolithique ou du paléolithique.
Ah, je suis peut-être du néolithique, moi, finalement, parce que j'ai gros problèmes de dents en ce moment.
Ouais, ça, c'est les chocopopes.
Et donc voilà. Donc c'est pas parce que leur alimentation est meilleure, mais si la population augmente, c'est avec la sédentarisation.
Ah.
Parce qu'en fait, les femmes vont pouvoir avoir plus d'enfants parce qu'elles vont parce qu'elles sont sédentaires. Quand on est à 8-9 mois de grossesse, on ne fait pas des déplacements. Donc c'est vrai que les déplacements étaient limités les grossesses étaient limitées au paléolithique et au mésolithique, liées certainement en partie à ce problème de sédentarisation. Et là, comme ils sont sédentaires, les femmes vont avoir plus d'enfants rapprochés, ce qui explique en partie que la population va augmenter. Et la population va augmenter alors que les gens ils seront plus malades. Mmh. Il va y avoir, comme il y a une plus grande proximité avec l'animal, on va avoir également évidemment plus de zoonoses dans les populations néolithiques qu'on ne retrouvait pas au mésolithique.
Ouais, on ne sait pas tous ce que ça veut dire zoonose. Hein.
C'est des maladies qui sont transmises de l'animal à l'humain.
D'accord.
Voilà. Et voilà. Et donc, il va y avoir plus de maladies comme ça qui vont se diffuser. Donc, ils vont arriver progressivement. Donc, progressivement, ils sont confrontés à des populations mésolithiques. Mais ce qui est très surprenant, c'est qu'ils amènent dans leur bagage leurs techniques, leurs animaux et leurs graines.
Ouais.
Ce qui fait que quand ils arrivent, et ça, c'est passionnant, quand ils arrivent en Europe occidentale, les bovins qu'ils ont ne sont pas des aurochs européens qu'on va domestiquer sur place, c'est des bovins qui ont été domestiqués au Proche-Orient. Des bovins qui, pour la plupart d'entre eux, des bovins qui ont été domestiqués au Proche-Orient, qu'ils ont amenés progressivement avec eux au fur et à mesure des générations, et qui atterrissent en Europe occidentale.
Mais alors, Estelle, sur ces moments-là.
Le néolithique est importé en Europe occidentale. C'est vraiment une importation d'une technique.
Mais quand tu nous dis importation, ça se fait de manière pacifique, à savoir, il y avait peut-être personne sur ce territoire-là et on arrive avec notre culture et on met notre culture, ou il y avait du monde à cet endroit-là et on impose notre culture et notre élevage.
Il y avait du monde. Il y avait du monde. Et c'est vrai qu'on constate que. Le néolithique, c'est marqué par ces changements dans l'alimentation, c'est marqué par une plus forte hiérarchisation de la société. On va remarquer ça dans les villages, des maisons qui sont particulièrement belles, des tombes, et par une spécialisation artisanale, et puis c'est marqué par davantage de guerres. Donc on va, plus on avance dans le néolithique, plus on va voir que les villages sont fortifiés avec des remparts.
Oui.
Donc là, c'est un signe. On va retrouver également des traces de massacres, de populations où ils se sont juste tapés dessus et liquidés les uns les autres. Donc, ça existait déjà, mais là, on va avoir beaucoup plus de scènes de ce type-là. On va avoir, à la fin du néolithique, quand on va rentrer plus ou moins dans l'âge des métaux, on va avoir de plus en plus d'armes et donc de plus en plus également d'objets de prestige. Qui témoignent de cette hiérarchisation de la population. Donc, ces objets de prestige, alors c'est quoi un objet de prestige ? C'est un objet qui sert à rien, mais qui a une forte valeur ajoutée. Par exemple, on a dans tout l'ouest de la France des haches en jade qui viennent des Alpes. On a dans les tombes des perles qui viennent d'Espagne. Des haches également qui viennent d'Espagne. On a de l'ambre qui vient de la Baltique.
Ouais.
Donc on a, et ça que dans certaines tombes.
Ouais.
Donc on a cette hiérarchisation de la population qui va s'accentuer.
On peut parler de classe sociale ?
Pardon ?
On peut parler déjà de classe sociale ?
Alors ce sera un petit peu un anachronisme de parler de classe sociale encore, mais on peut vraiment parler d'une hiérarchisation de la population. Et peu, on va de plus en plus voir apparaître la fameuse triade qu'on retrouve dans les sociétés indo-européennes, c'est-à-dire ceux qui prient, ceux qui combattent, ceux qui travaillent. Et ça, on va le retrouver de plus en plus, en fait. Ça va de plus en plus s'affirmer. Alors, là où on le voit le mieux, évidemment, c'est avec ces objets de prestige qui sont très étudiés par les archéologues. Et on va le voir beaucoup, évidemment, avec les tombes. Ce qu'on appelle le mobilier viatique, c'est-à-dire le mobilier que l'on dépose dans les tombes. Et donc là, évidemment, les offrandes faites aux chefs sont très différentes des autres. Et puis, c'est l'apparition du fameux mégalithisme, hein, où on va enterrer les chefs dans des grands monuments qu'on appelle des cairns ou des tumulus. Dans des très grands monuments, et ben pour les autres, on a très très peu de tombes. La plupart d'entre elles ont disparu. Ils avaient juste une petite fosse et on les mettait dedans. Voilà.
Mais alors ça, donc pour le coup, j'ai l'impression
cette hiérarchisation de la société très forte qui va se mettre en place de plus en plus. Voilà.
Et j'ai l'impression que l'humanité a tout de suite tenu un rôle. Enfin. Mis ses morts sur un piédestal, j'ai l'impression que ça se retrouve partout sur la Terre, avec que tu parles de cairn, tu parles de tumulus, on parle d'autres choses en Indochine et des choses comme ça à l'époque. Comment ça se fait ça? Il y a des explications là-dessus, que le mort a toujours été respecté presque plus qu'un vivant?
Alors les morts, c'est vrai, dans le monde, on a des pratiques liées aux morts qui sont surprenantes, très très différentes d'un aspect à l'autre, mais il y aura toujours une hiérarchie dans le traitement des morts.
Ouais.
Donc ça, c'est systématique. Alors, c'est lié à la hiérarchisation de la société, et c'est lié au fait on veut montrer l'importance de l'individu, et cette importance de l'individu, on va le montrer par le mort.
Ouais.
Mais en fait, ces grandes tombes que l'on voit, ces grands cairns que l'on voit, ces grands menhirs que l'on voit en Europe occidentale, ne sont pas que pour le mort, en fait. Elles sont aussi pour montrer le pouvoir d'un territoire, le pouvoir d'une communauté. Donc, c'est des monuments très ostentatoires, qui sont là pour montrer le prestige, qui sont là pour tout ça.
Mais j'ai l'impression que ça a touché absolument toutes les populations partout sur le globe, faire en sorte que le mort soit vraiment valorisé à outrance, quoi.
Voilà. Alors, le mort est valorisé. Donc, c'est la mémoire du groupe social. Donc, voilà.
Ouais.
Et puis, on constate aussi que la société va se hiérarchiser de plus en plus avec le stockage, en fait. Ah. À partir du moment où les humains vont commencer à faire du stockage, il va y avoir une hiérarchisation de la population. Et ça, c'est systématique. Même chez des populations qui ne vont pas adopter l'agriculture et l'élevage, à partir du moment où ils stockent, il y a cette hiérarchisation de la population.
Mmh.
Donc c'est pour ça qu'on a ces populations néolithiques, voilà, classiques, qui vont faire élevage, agriculture, hiérarchisation de la société et tout ça. Mais on a aussi des populations qui vont rester chasseurs-cueilleurs, mais qu'on ne peut pas réellement dire que c'est paléolithique ou mésolithique, parce que c'est des populations très hiérarchisées. Ça peut être des populations esclavagistes qui vont accentuer la hiérarchisation de la population. En fait, pour beaucoup d'ethnologues, ce qui va changer vraiment, ce qui modifie vraiment la société, c'est le stockage.
Et le stockage, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que celui qui stocke le plus, ça va être, haut dans la...
Celui qui stocke le plus les denrées alimentaires va avoir plus de pouvoir sur les autres.
Ouais, Loïc?
Oui, une petite question concernant cette hiérarchisation. Je me demandais si finalement, tu parlais de stockage, stocker, c'est finalement protéger ce que l'on a récolté pour ne pas se le faire voler par rapport aux autres, peut-être. Et donc, tu parlais tout à l'heure notamment de villages qui commencent à se protéger avec des remparts. Et on voit, je prends l'exemple à Jublin en Mayenne, par exemple, on a cette fameuse forteresse qui longtemps a été, qui est toujours d'ailleurs un peu mystérieuse. Et l'une des réponses, c'est de montrer qu'il y a eu du stockage de céréales et qu'on a voulu évidemment protéger ça fortement. Et donc, ma question était effectivement de dire, à partir du moment où on a quelque chose à protéger, et bien du coup, il y a des gens qui ont cette fonction de protéger. Et du coup, peut-être qu'il y aura là déjà la fameuse hiérarchisation de ceux qui protègent, donc qui vont se battre finalement pour protéger le village, et de ceux qui donnent les ordres éventuellement et de ceux qui travaillent. Voilà, c'était juste une remarque et éventuellement aussi une question.
Alors, c'est exactement ça. Le stockage, d'abord, si on arrive à stocker, ça veut dire qu'on arrive aussi à avoir dégagé un peu de surplus. Et plus celui qui stocke le plus va avoir la plus grande sécurité alimentaire, les autres vont dépendre de lui.
Mmh.
Et donc, à partir du moment où on dépend de quelqu'un, ce quelqu'un devient le chef, a plus de prestige.
Mmh.
Et donc, c'est pour ça que ça va développer cette hiérarchisation sociale, cette capacité à stocker. Celui qui a le plus produit, ça va être celui qui va pouvoir vivre sans problème toute l'année et distribuer aux autres. Mais on ne distribue pas aux autres pour rien. Donc il va prendre cette fonction de chef progressivement, en fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a cette hiérarchisation sociale liée au stockage. Et ça, par contre, on le retrouve quels que soient les modes d'alimentation des personnes. On retrouve ça partout dans le monde, stockage, hiérarchie.
Parce que le stockage, éventuellement, pouvait servir et servait souvent de monnaie d'échange, finalement. C'était la monnaie que l'on pouvait transmettre ou voler à l'autre. Et donc c'était...
On peut troquer, oui.
Voilà, donc le stockage, c'est synonyme de puissance, finalement.
Et ils vont pouvoir troquer. Et très progressivement, vont se mettre en place aussi ce qu'on appelle des proto-monnaies. C'est-à-dire des choses qui sont échangées et qui n'ont pas de valeur en soi, mais c'est la valeur que le groupe culturel en question leur donne qui va faire qu'elles ont de la valeur.
Ça, c'est pas un moment de bascule précis, justement, le fait qu'on commence à troquer, à payer, à savoir qu'il y a quelqu'un de plus riche qu'un autre, et ainsi
de suite. Est-ce qu'on peut parler d'économie de production,
oui,
déjà?
Alors, on va pouvoir parler, tout à fait, on va pouvoir parler de... On n'est plus sur que de la subsistance à certains endroits, on a de la production puisqu'on a des échanges, de biens de prestige aussi. Donc, il ne s'agit pas non plus d'une bascule, parce que ça va se mettre en place de façon progressive aussi. Ça ne va pas non plus se faire du jour au lendemain. Et on voit cette évolution progressive depuis le néolithique jusqu'à l'âge du bronze, où on a progressivement de plus en plus d'objets de prestige. Et puis, ces objets, les villages qui vont commencer à être entourés de remparts, qui vont se fortifier. Donc ça, on voit ça apparaître plutôt vers le néolithique récent, doucement. Mmh. Et puis, progressivement, des proto-monnaies qu'on sait reconnaître, parce qu'on a peut-être avant qu'on ne savait pas reconnaître. Donc progressivement, des proto-monnaies qui vont commencer à se mettre en place à la proto-histoire, c'est-à-dire... à l'âge des métaux. Alors, on appelle ça la proto-histoire parce que c'est une période que ça date, on est environ vers 3500 avant Jésus-Christ.
Ah oui.
Donc, on appelle ça la proto-histoire parce que dans d'autres régions du monde, notamment au Proche-Orient, ils ont inventé l'écriture, ils sont dans l'histoire. Mmh. Nous, on n'en est pas encore là, mais on a quand même des systèmes qui se mettent en place de cette façon-là.
Tu vois, la bascule reconnue de la préhistoire à l'histoire, c'est cette fameuse découverte de l'écriture. Ça aurait pu aussi être la découverte de la monnaie d'échange, ouais. C'est complètement révolutionnaire, ça.
La seule chose, c'est que ce serait plus difficile à donner une date précise parce que tout simplement, il y en a certaines qu'on ne reconnaît pas. En même temps, quand ils parlent de la naissance de l'écriture, 3500 avant Jésus-Christ, c'est vrai qu'on a des espèces de systèmes de proto-écriture qui remontent à 5000 avant Jésus-Christ. Dans la vallée des Merveilles, par exemple, dans les Alpes, entre l'Italie et la France, là, vous avez des milliers de gravures qui représentent tout le temps les mêmes systèmes de signes. Et plutôt que de simples gravures, beaucoup d'archéologues voient là-dedans une proto-écriture. Mmh. Donc des textes, des choses qui sont racontées, en fait. Donc là aussi, parler d'écriture, c'est marqué. C'est une fois de plus, c'est plus compliqué que ça, en fait. C'est plus compliqué que ça.
J'ai l'impression que c'est souvent la réponse de l'archéologue, ça, Estelle, que c'est plus compliqué que ça.
Du scientifique en général.
Du scientifique, que c'est plus long que ça sur la période historique et ainsi de suite. Lionel, qui se passionne encore, et ensuite on sera obligé de tout couper. Estelle, on arrête déjà à la fin de l'émission, mais bien sûr, je le disais, on aura un autre volet, Lionel.
Oui, parce que tu as beaucoup assisté, et c'était très intéressant sur la croissance de la hiérarchie dans ce néolithique. Est-ce qu'on peut dire que plus c'est hiérarchisé, plus la société, le groupe social est fort et sain, et on peut aller même à des extrêmes. Tu as parlé d'esclavagisme même tout à l'heure en termes de hiérarchisation.
Alors je ne sais pas si le groupe social est plus fort. En tout cas, c'est quelque chose qui se met en place. Après, il peut y avoir des révoltes et tout, donc je ne suis pas convaincue que ça le rende plus fort. Mais il s'accapare le pouvoir, ça c'est certain. Mmh. Alors juste avant quand même la fin pour que on parle un tout petit peu d'artisanat aussi, parce que c'est super intéressant.
Mais oui, il y a
l'artisanat qui va se développer, notamment l'invention de la poterie, qui va être caractéristique du néolithique. Et ce qui est intéressant pour nous, archéologues, avec la poterie, c'est quelque chose de très précieux. Déjà, il n'y a pas de poterie chez les nomades, parce que la poterie, c'est lourd et ça se casse. Donc voilà. Donc l'invention de la poterie, ça va être lié à la sédentarisation. Pas forcément le néolithique, mais la sédentarisation. Et la poterie, pourquoi c'est particulièrement intéressant pour des archéologues? Parce que la poterie, ça casse, justement. Et comme on fait des décors dessus, comme c'est de l'argile, c'est malléable, on va pouvoir être beaucoup plus précis dans les dates avec la poterie. Mmh. Donc, pour nous, c'est très intéressant. Et en plus, de plus en plus, il y a des études qui sont menées de biologie dans les restes de poterie. Et on arrive à déterminer aujourd'hui, parce que ça va être prisonnier dans les pores de la poterie, les petits trous de la poterie, et ils vont réussir à trouver que contenait la poterie. Donc on va pouvoir savoir précisément ce qu'ils mangeaient, et comment est-ce qu'ils le mangeaient. Et c'est comme ça qu'on a pu découvrir que, il y a 5000 avant Jésus-Christ, par exemple, on faisait déjà du fromage, des choses comme ça. Donc c'est particulièrement passionnant de voir précisément ce qu'ils mangeaient, et on sait donc du coup qu'ils consommaient du lait, qu'ils mangeaient du fromage, et à partir de là on voit un peu comment se met en place aussi tout ce qui est tolérance au lactose, des choses comme ça. Donc avec ce qu'on appelle la bioarchéologie, on a plein de choses qui commencent à émerger là. On commence à connaître le contenant en fait de ces poteries et savoir un petit peu plus où est-ce qu'ils allaient. Autre chose, autre grande maîtrise qui va être très importante au néolithique, c'est le sel. Il va y avoir d'énormes échanges pour faire du sel, production du sel, et la production du sel, ça remonte au néolithique. Le sel, c'est très important pour pouvoir conserver les aliments. Et on va voir que les régions qui sont capables de produire du sel vont être des régions particulièrement riches. Donc ça, on sait ça, par exemple, dans le Jura. On a des régions néolithiques qui sont vraiment très riches. Et on se questionne pour le golfe du Morbihan, en Bretagne, où vous avez la plus grande concentration de menhirs, de mégalithes, tout ça. Et on se demande quelle était leur source de richesse à ces gens-là. Comment ça se fait qu'il y en ait quelque chose comme 5000 menhirs, des monuments mégalithiques partout dans cette région-là. Et il y a plusieurs archéologues qui pensent, je ne dis pas que c'est sûr, ils pensent, c'est des recherches en cours, qu'il y avait probablement une production de sel. En tout cas, ce qu'on est certain, c'est qu'en Vendée, ils produisaient du sel au néolithique.
Tu parles de sel au marais de type marais salant.
C'est le type marais salant.
On n'est pas sur du sel natif, du sel gemme, parce que tu parlais du Jura. Le Jura, j'imagine que c'est du sel des mines de sel.
Oui.
Mais là, tu évoques peut-être des marais salants dans l'ouest de la France.
Alors, le problème du marais salant, ça va être très compliqué. Pour le moment, on n'a pas les techniques pour vérifier s'il y a du marais salant néolithique, parce que ça se trouverait sous des mètres de vase. Donc, pour le moment, on a la documentation indirecte. Par contre, on a des choses particulièrement intéressantes, c'est-à-dire des petits vases, enfin des morceaux de vases qui ressemblent à rien, qui pendant longtemps ont été jetés parce que ils ne permettaient pas de dater ni rien, voilà. Et aujourd'hui, avec la bioarchéologie, donc certains de ces tessons ont été repris et les archéologues ont constaté qu'en fait c'était des petites briquettes qui contenaient du sel. En fait, comment ça se faisait ? Donc, ils faisaient de la saumure, donc en récupérant l'eau de mer avec des plantes, voilà, en brûlant. Et ensuite, ils mettaient des petits vases dans lesquels ils mettaient cette saumure, ils mettaient le feu dessous et ils obtenaient des pains de sel. Et on arrive aujourd'hui à tracer de plus en plus ces pains de sel. Et c'est particulièrement intéressant parce qu'on voit que les régions où on a produit du sel, sont toujours des régions particulièrement riches. Donc cette grande question de savoir d'où vient cette richesse de la Bretagne, ça peut être lié à la production de sel. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans le golfe du Morbihan, on a parmi les monuments mégalithiques les plus vieux d'Europe occidentale. On est sur du 4900 avant Jésus-Christ. Et la grande question, voilà, c'est d'où vient, quelle est la richesse qui a permis cette diffusion.
Là,
aujourd'hui encore, jusque dans les périodes historiques, en fait, le sel a entraîné la richesse de populations et de villages entiers, que ce soit les Touaregs, que ce soit à Guérande, que ce soit également en Autriche, à Hallstatt, à l'époque gauloise, ils ont fait des villages et puis ils ont diffusé leur culture sur toute l'Europe centrale parce qu'ils exploitaient le sel. Donc le sel était une grande source de richesse.
Et oui, et à partir de là, on peut se dire que tous ceux qui habitaient autour de la mer Morte, ils devaient être sacrément riches, du coup. Estelle, on se passionne encore, évidemment, et on te coupe vraiment cette fois-ci. On se retrouve le mois prochain pour continuer à décliner le néolithique, bien entendu. Et vous aurez droit, même sur la dernière partie, à un résumé de ces trois périodes passionnantes de la préhistoire avant que l'on fasse la grande bascule vers l'histoire. Tout ça, c'est dans Histoire épique. Sur les prochains mois. On a 15 ans, 20 ans devant nous pour décliner tout ça. On se régale.
Toute une histoire.
Merci beaucoup, Estelle. Eh bien, elle est déjà partie, peut-être.
Non, ça va, je suis là, t'inquiète.
Eh bien, on te remercie encore beaucoup pour cette émission passionnante. Et on n'oublie pas qu'on en est au sel, messieurs dames. Vous vous accrochez. Tout est passionnant. Et on avancera pour ça. On se dit à quand, Lionel ? Dans un mois. Oh là là, on va se languir.
C'est une mensuelle.
Encore. Est-ce qu'on retrouvera du Loïc?
Oh, tellement.
Loïc. Attendons dans un mois.
Allez, messieurs, dames. D'ici là, continuez à vous cultiver, bien entendu. Continuez à aller revues d'histoire. Continuez à aller voir en Mayenne, parce qu'en Mayenne, il y en a plein aussi de l'histoire. Et ça, c'est complètement passionnant. Loïc nous parlait de Jublin tout à l'heure. Bah, rien que là, on peut trouver des traces donc, du néolithique.
Peut-être. Le sel de l'histoire.
Le sel de l'histoire. Exactement. Allez, au revoir à tous.